hors les murs.
La maison des écrivains et de la littérature.
Rencontre littéraire au Petit Palais. La poésie pour quoi faire, Pierre Auster. Un entretien avec Jean-Michel Maulpois, écrivain, professeur à Paris-Ouest.
Pierre Auster n'est pas un solitaire, c'est un passeur, c'est un carrefour, un poète dans le sens où le poète est à la fois retranché et entouré. Je pense toujours à ce grand modèle mallarméen du poète retranché et entouré. Pierre Auster ouvert au dialogue, et c'est donc un plaisir de dialoguer aujourd'hui à nouveau avec lui, ouvert au dialogue, et je dirais même en tant que le dialogue est lui-même inhérent au poème. De ces dialogues, ou de ce dialogue, porte notamment témoignage un livre, un beau livre publié chez Fata Morgana, c'est cette année, je crois, ou l'année dernière, 2009, donc l'année dernière, bien sûr, puisque nous sommes en 2010, intitulé « Une machine à indiquer l'univers », et qui réunit 9 dialogues, 9 entretiens, avec des auteurs ou des universitaires aussi divers que Jean Biès, Philippe Camby, Michel Orcel, Jacques Darras, Michel Collot, Maurice Couquiot, Gilles Vanier, Réginald Gaillard, Franck Damour, François Bodart. Je voudrais ici avoir une pensée toute particulière pour Gilles Vanier, qui était mon condisciple à l'École normale supérieure et qui est disparu il y a quelques jours. Je voudrais citer justement ce passage d'ouverture, dédié aux amis, où il est question des vertus du dialogue, des vertus de l'échange. Tu écris, Pierre, ceci: certains dialogues, lorsque l'amitié les inspire et les éclaire et s'ajuste à l'objet, nous donnent de recomposer l'ordonnance de notre géographie intérieure. À mesure que l'on travaille à reprendre des transcriptions par force un peu hasardeuse, les vues successives d'un chacun se précisent comme au centre d'une petite totalité. Le jeu intemporel des auteurs, l'idéal les instruit, ils ne se trouvent pas seuls. Des propos peut-être neufs nourrissent des interrogations naïves ou sages qui réciproquement s'étayent. Il se crée une expansion énigmatique d'esprit, chez qui un tiers lecteur devrait reconnaître quelque aptitude à réunir dans l'instant des termes d'accord. J'aime beaucoup cette expression, une expansion énigmatique d'esprit. Il me semble qu'on est là dans une logique qui n'est, à vrai dire, pas très différente de celle de ton écriture poétique elle-même, où l'expansion est également à l'œuvre et où on se trouve dans une logique de, justement, d'ouverture, au centre d'une petite totalité qui devient une grande totalité, selon ce mouvement d'expansion de paroles lyriques ou d'une parole lyrique qui est la tienne. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, je dirais que tu passes dans ce territoire contemporain de la poésie, tu passes accompagné, tu passes volontiers en retrait d'ailleurs, à l'ombre d'eux ou à côté d'eux. Et je voudrais tout de suite indiquer un autre livre qui en porte également témoignage, c'est Pratique de l'éloge. Pratique de l'éloge réunit un certain nombre d'hommages, de textes critiques consacrés cette fois à ceux qu'on pourrait appeler tes maîtres, d'une certaine façon, tes compagnons, puisque tu les as pour la plupart fréquentés, rencontrés, des compagnons de route un certain temps, Saint-Jean-de-Perse, Jean Grosjean, Jean Paulhan, Philippe Jacotet, Guy Vic, Francis Ponge, La Tour du Pin, Jean-Claude Renard, Jean Follin. Tout cet entourage, me semble-t-il, est très précieux. Il y a un curieux accord qui s'établit, je dirais, entre l'éloge d'autrui et l'éloge du monde. L'éloge, c'est un des grands mots de ta poétique. C'est celui peut-être qui la résume le mieux, hein, dans la lignée même de la phrase célèbre de l'exclamation célèbre de Saint-Jean-de-Perse, « Oh, j'ai lieu de louer », dans Éloge précisément, et que tu reprendrais volontiers à ton compte. Mais l'éloge chez toi, c'est aussi bien l'éloge des autres écrivains que l'éloge du monde dans ses détails, dans son ensemble. Il y a une pratique de l'éloge qui définit de part en part, me semble-t-il, et complètement, totalement, ton univers poétique, ton univers intellectuel, qui est corollaire d'une étonnante alliance de modestie, de douceur attentive et de prudence. Ce sont là des vertus qui ne sont pas étrangères non plus à un certain goût pour la hardiesse, je crois que c'est un de tes mots, mais tout se passe comme s'il n'y avait pas de grandes prétentions littéraires chez toi, de grandes prétentions ou de grandes ambitions lyriques qui se voudraient conquérantes de quelque absolu, de figures d'écrivains qui chercheraient à s'imposer toutes seules et par elles-mêmes. Il y a au contraire un retrait, l'idée d'un nécessaire renforcement continuel par le travail et l'idée aussi que la poésie apporte d'autres bénéfices que strictement esthétiques ou poétiques, qu'elle ouvre sur un rapport au monde et un rapport à autrui qui est plus large, plus délicat. Alors, ta poétique, on en entendra des extraits tout à l'heure à travers des fragments de requêtes ou d'autres textes qui ont été réunis dans ce volume aux éditions Gallimard, ce volume anthologique, ce volume qui réunit une grande part de tes travaux lyriques et critiques, je dirais, depuis 1951 jusqu'à 2000, donc 50 années ou presque d'écriture poétique. Ta poétique, elle se développe volontiers à travers autrui, ou à travers la lecture d'autrui, ou le commentaire d'autrui. Elle est, je dirais, presque reconnue ou recueillie en autrui, avec ces alliages ou ces alliances qui sont notamment développées dans pratique de l'éloge, par exemple le rapport à Dieu, c'est à travers la lecture de Jean Grosjean qu'il se précise, le rapport à l'éloge, c'est à travers Saint Jean de Perse qu'il se formule, le rapport sourcilleux à la langue, c'est à travers Paulhan qu'il trouve sa formulation, l'importance prise par le présent dans ton écriture, c'est volontiers en référence aussi à Claudel. Bref, très souvent tu passes ou tu repasses par des œuvres proches, des œuvres voisines, d'autres encore, Brice Parrain, Philippe Jacotet, Michel Deguy, pour formuler ta propre conception de l'écriture poétique. Alors peut-être pourrait-on tout de suite entendre un extrait, à moins que tu souhaites réagir à ce que je viens de dire.
Oui, une première chose à dire et même à souligner, c'est que lorsqu'on publiait en 1954-55 un premier livre, tout par l'effet de la bonté de Gaston Gallimard et de Jean Paulhan et de Marcel Arlan, eh bien, cela n'entraînait pas de conséquences vraiment heureuses. C'est-à-dire, le livre, une fois paru, on se trouvait jeté dans un Paris désert où il n'y avait absolument aucun contact avec personne. Quelques amis, bien sûr, mais une réunion telle que celle-ci, aujourd'hui, qui montre à l'évidence que les pouvoirs publics, la ville de Paris, d'autres instances, se préoccupent de savoir si on ne peut pas imaginer des réunions de gens dirigées par un universitaire tel que toi. Cela n'existait pas. C'est-à-dire qu'un jeune poète en 1953, un jeune écrivain, en 53, 54, 55, se trouvait lâché complètement dans Paris et que cette réunion d'esprits amicaux, cette table idéale que je décris autour de laquelle se trouvent réunis quelques... cette table n'avait pas été construite. Et toi-même, Jean-Michel, qui est venu un petit peu après moi, en quelque façon, tu t'es déjà trouvé engagé dans une situation qui était beaucoup moins défavorable que celle que j'ai connue en 53, 54, 55, 56. Puis ensuite, je suis parti guerroyer sur des terrains très lointains, non pas très lointains. Et alors là, véritablement, la solitude du poète était entière, définitive, et personne ne pouvait même imaginer que le paysage littéraire français changerait de telle manière que une séquence, une séance telle que celle que nous allons vivre aujourd'hui rapidement, pouvait se produire. Ça, c'est pour moi l'inconnu même. Quand je passe et que je vois l'Institut du monde arabe à quelques encablures de Notre-Dame, je me dis, mais véritablement, comme les villes changent, comme les civilisations changent, Institut du monde arabe, c'est quelque chose, c'est une expression que, j'ai été 24 mois en Algérie, si l'on m'avait dit, dans 30 ans, dans 40 ans, on verra s'élever dans Paris un institut du monde arabe, j'aurais dit, mais ce garçon et cet interlocuteur est dénué de raison. Je veux dire que je prends conscience que notre présence ici indique que l'université, par exemple, s'est ouverte d'une certaine manière, avant de se refermer. Peut-être. Bon, c'est ouvert. Non, c'est-à-dire, nous sortons d'une sorte d'âge d'or. Hein, il y a eu Beaubourg, ça n'a l'air de rien, mais tout d'un coup, il y avait une salle de lecture, hein, souterraine, assez belle, 200 places, et puis il y avait un directeur littéraire de ce musée, il est mort dans l'alcool, disons, mais qui savait inviter du monde, et on réunissait du monde. Si bien que Paris changeait de...
Oui, mais est-ce que... Alors...
Changeait de substance, c'est-à-dire on pouvait imaginer que le lectorat, comme on ne disait pas à l'époque, a tout jamais disparu, comme ça, dans le calme de bibliothèques de province. Il y avait peut-être encore quelques lecteurs, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait des lecteurs qui se réuniraient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, tu décris là une sorte d'âge d'or que je n'ai pas vécu. J'ai commencé par vivre... personnellement, et bien d'autres écrivains, un âge de fer. Alors heureusement, il y avait les revues. Il y avait Jean Paulhan, il y avait Marcel Arlan, il y avait Maurice Nadeau, il y avait Maurice Saillet, il y avait les Cahiers du Sud. Voilà.
Mais il y avait toutes choses qui ont disparu.
Il se publiait en France tous les mois à peu près 1000 pages de bonne littérature.
Oui, oui. Mais est-ce que ce n'était pas plus important, ces 1000 pages de bonne littérature, et ces revues et ces rencontres directes?
J'oublie le Mercure de France. Bon, il se publiait plutôt entre 1000 et 1500 pages de critiques, de textes nouveaux. Moi, mon premier poème a paru au Mercure de France grâce à un ami, qui s'appelle Robert Abirachel. Oui, mais après ça, il n'y avait rien. C'est-à-dire, les revues étaient les seules petites constructions à l'intérieur desquelles il se passait quelque chose qui ressemble à une forme d'expression romanesque, poétique, les essais, et ainsi de suite. Sinon, Paris était vide, Paris était désert. Voilà, je tenais à le dire parce que j'ai connu des moments de solitude extrême.
Oui, solitude.
Après avoir publié, pas par chance, parce qu'on ne publie jamais que par chance, jamais les mérites ne sont récompensés et jamais les erreurs ne sont dénoncées.
Mais en même temps, ce petit livre, j'y reviens quand même, Pratique de l'éloge, donne vraiment le sentiment d'une interlocution personnelle, d'une conversation amicale et très féconde avec des écrivains qui sont des auteurs extrêmement importants.
Ensuite, il faut s'y prêter. Il se trouve qu'effectivement, la présence de Jean Paulhan, de Marcel Arlan, c'était des gens qui avaient envie de faire se connaître les personnes qui venaient vers elles. C'est-à-dire que Jean Paulhan, à peine avait-il publié 4 pages, comme ça m'est arrivé en novembre 1954, il vous demandait une note de lecture. Voilà, le processus, c'était ça. Chaque personne qui est admis à l'honneur de publier dans la NRF doit payer son passage, en quelque façon, par l'apport d'un témoignage d'attention apporté à autrui. Alors là, on tombe effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que faire une note de lecture, proposer une note de lecture? Parce que ça, c'est un langage que tu as beaucoup parlé, toi, la note de lecture. Tu en as fait des centaines. Bon, eh bien, c'est le témoignage de l'amitié que l'on peut porter, effectivement, de façon agréable, difficile parfois dangereuse, à l'ensemble des autres écrivains. Un écrivain n'est pas seul. Mais la solitude dont il sort lui reste intime quand même, parce que les moyens de s'exprimer ne sont pas forcément durables. Oui. Par exemple, moi, aujourd'hui, je voudrais écrire une note concernant un écrivain que j'aurais aimé découvrir et que je voudrais servir, mais je ne saurais pas où publier cette note. Voilà. Alors qu'il y avait... Voilà.
Bon. Mais c'est pour
donc
ça,
la solitude, on en sort, mais on peut s'y trouver de nouveau projeté.
Bien sûr. Mais je commençais par ce rappel de Mallarmé, l'homme solitaire, retranché et entouré. Je pense toujours à cette très belle phrase, « Sait-on ce que c'est qu'écrire cette ancienne vague et jalouse pratique dont gît le sens au mystère du cœur, qui l'accomplit intégralement, se retranche ?» Cette solitude, elle est d'abord fondamentalement la solitude de l'écrivain, la solitude du poète. Il n'y a pas d'écriture possible sans cette solitude assez dure, à vrai dire. Mais qu'elle se prolonge par cet entourage, cette espèce de circonférence que tu dessines, et où on a l'impression, c'est la grande particularité de ton œuvre, c'est là-dessus que je voudrais insister tout de suite, c'est qu'il y a ce même entourage, finalement, humain, littéraire, cette conversation avec ceux que Char aurait appelés des alliés substantiels, que l'entourage du monde lui-même, de la nature, des éléments naturels que tu célèbres dans ton écriture. L'éloge rayonne dans ces deux directions.
Oui.
Voilà. On va peut-être entendre Sophie Bourrel lire le début, justement, le début du premier poème qui date des années 50. C'est ça ? C'est extrait du Chant de mai qui commence par Cavalerie de l'or, Cavalerie du temps. Je le dis pour ceux qui te connaissent mal, tu as simplement numéroté tes poèmes, même si, évidemment, ce volume est composé de plusieurs et chaque livre a lui-même son titre. Mais les poèmes de Pierre Auster sont simplement numérotés. Et donc, voilà le premier.
Cavalerie de l'or, Cavalerie du temps. Toute cavalerie entend battre la mer, et la forêt mouillée, cavalerie, l'entend. Grande forêt mouillée entend battre la mer, grande forêt entend. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, ô forêt d'eau et d'or. Grande forêt mouillée entend battre la mer, Loya souffre là-bas de n'être pas foulée. Foulé, ô vain sommeil, que salent des écailles, voici grande forêt. Tu es roc et tu vis, je respire à travers, ô forêt, ô galop, ton noir galop de pierre. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, claire cavalerie des grands actes du temps, un arbre dans le ciel contre le ciel prétend. Ô tempête trouée d'un arbre toujours noir, ma coiffure défaite griffe le lit du temps. Un arbre dans le ciel, et la force se lave. Un arbre dans le ciel que protège un oiseau. Ah, qui protégera l'arbre assiégé d'épaves de regarder au ciel trop haut? Au repos, tu ignores l'eau du fleuve et ses dons. Le fleuve doit grandir sans ton adoration. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, au cœur de la montagne, balance des torrents. Quelle flamme surplombe, ô fontaine des feuilles naïves, le message de l'été partagé. Devisante saison, frondaison, répondez. Un arbre dans le ciel, la ruisselante mort, n'aura pas de maison. À l'heure du déjuc, la défaite incertaine, la mer incendiée recule sous les ponts. L'or même s'abandonne, la nuit lignée limpide, parcourue de parures, exalte ses raisons. Pluie, espace, victoire, solitude des jours. Une douceur de sable campe sur mes genoux. Mon rire ne sait plus quel refus le soulève, quelle bête détourne l'océan de ma joue. Un cheval sans sabots paît derrière la brume, je songe au coquillage qui le couvre de sang. Lueur de l'origine redénouée la mer, ô mort déjà moins vieille entre en sédition. Un arbre dans le ciel, solitude des feuilles, ô solitude en feuille sur mon front.
Pierre, cette lecture, entendre un texte comme ça qui est un des plus anciens, je suppose.
Oui.
Comment tu...
Oui. Bon, bah, comment la, tu la chose s'explique aisément. Lorsque Antoine Gallimard a dit « Bon, bah, faisons un livre de poche, puisque vos autres ouvrages ont été promis à toutes les joies du pilon, il n'y en a plus, donc on va faire... Un... » Bon, il fallait bien commencer par un premier poème. Je me suis dit que peut-être celui-là n'aurait pas... Je me dis aujourd'hui qu'il n'aurait peut-être fallu l'écarter, mais finalement, il fallait le premier poème, donc je l'ai gardé, voilà, puisque la liberté m'était... Mais je ne pouvais pas, d'entrée de jeu, commencer à chipoter, à casser, à descendre dans la tranchée avec un couteau pour tuer les blessés. Je l'ai laissé tel quel. Voilà, il est dans... Il a paru dans le Mercure... Et il est à tout jamais, de cette façon que vous avez entendue, livré à des forces contradictoires.
Bon. Livré à des forces contradictoires, c'est-à-dire...
Oui.
Il donne le ton.
Oui,
il ouvre tout de même un
certain... Merci, mais oui, mais c'est pas un texte construire, voulu, méditer, c'est jeter comme ça dans des circonstances certainement peu agréables. Je ne sais pas, je préfère me taire.
Oui, mais c'est quand même important, c'est ton...
Non, mais c'est... Non, mais hein, attention.
C'est ton
attention.
Premier texte, non, ce sont non, tes œuvres, bon, je ne dirais pas complètes, mais
non,
c'est...
Je dois dire, tu as cité le nom de Gérard Noiret, qui a été un critique très connu, qui est un poète très important, que je suis en train de lire, et il y a eu une époque où il était ouvrier dans une usine, où on fabriquait un produit assez étonnant, et il a, lors d'une... Après un repas, il était ouvrier, hein, il avait un CAP de dactylographe et il se trouvait devoir gagner sa vie dans une usine où on fabriquait un produit qui sentait assez mauvais d'ailleurs. Et dans le livre d'or de la poésie française de Pierre Segers, il est tombé sur ce texte. Et il m'a redit l'autre jour que c'était là, ça avait été, cette lecture avait produit chez lui une sorte d'effet séminal, c'est-à-dire tout d'un coup il s'était dit, mais tiens, il y a autre chose que le monde dans lequel je vis, ma famille, mes proches, il y a quelque chose qui se passe comme ça, à travers un médium, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui d'une certaine façon m'attire, vaut pour moi quelque chose... Il est encore sensible à ce texte.
Mais j'y suis sensible aussi.
Ah bon ?
C'est pour ça que j'insiste sur ce texte. Je suis sensible au fait que, d'abord, ton œuvre poétique s'ouvre par le mot « cavalerie ». C'est assez inattendu.
Oui.
Ça n'est pas la tonalité majeure, mais tout de même, un certain ton est donné là, qui est celui de l'éloge, qui est un ton lyrique,
oui.
Vocatif,
oui, oui.
À son importance.
Oui, oui,
là.
Oui, mais tu as publié toi-même une thèse sur la notion de lyrisme,
oui,
thèse très
pas...
remarquée, donc tu vois du lyrisme partout, mais peut-être est-ce ça.
S'il y a un endroit où on peut en voir sans avoir beaucoup à chercher, c'est dans ce livre, me semble-t-il.
Oui, mais
là,
c'est une déformation poétique.
Non, absolument pas. Bon, alors... Disons que le ton lyrique est donné dès le premier poème.
Non, mais écrire ça à 20 ans, c'est pas miraculeux du tout, quoi.
Est-ce que je demande à Sophie Brel de lire un autre texte pour que tu sois obligé de répondre à mes questions et que tu ne puisses pas botter en touche, comme on dit, par des pirouettes Alors, on va prendre un autre texte. Non, non, mais je finirai par te faire parler du lyrisme. On prendra le temps qu'il faut.
Non, alors... Je dois, dans la vérité, de dire que la première fois que j'ai entendu Sylvie Bourrel, c'était dans un très beau palais bellical près de Tunis, où elle avait la charge de lire Les Indes d'Édouard Glissant. Je ne connaissais pas cette belle personne, je ne connaissais pas son nom, et tout d'un coup, nous étions 100, 150, il y avait 10 Français, il y avait 140 Tunisiens, et tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un qui savait lire. Bon, et toi-même, tu as entraîné Sophie, à lire du René Char.
Sur... C'est pas moi qui l'ai entraîné à lire.
Non, non.
On s'est retrouvé dans une lecture, voilà, oui.
Donc, mais alors, Perse, Glissant, je l'ai entendu lire du Perse une fois, et voilà, bon, c'est impressionnant, parce qu'on sait très bien que les auteurs se situent sur des différents barreaux de l'échelle du lyrisme. Il y a les grands, il y a les moyens, il y a les petits. Voilà. Bon. J'y reste.
Puisque la sève brille, puisque la sève s'offre à l'épaisse marée, puisque le monde éclate, que la passion du monde sur les deltas fondamentaux s'est déchirée, je vous posséderai, poussière. Poussière, je susciterai un grand vent pour vous prendre. Vous serez, ô poussière. La pierre essentielle vous ouvrira ses raies. Ô paix, ô cime de grâce, souffle, j'apprendrai à mourir, à naître dans mon lignage, puisque cependant, au cœur des essarts, fraîche de la fraîcheur des mers frappées de gloire, la pluvieuse épée tirée des prémices de mars s'arrête, et puisque la saison, la profonde saison, consent à tempêter, ô douce loi d'été, été de la beauté du monde, ô beauté du monde engravée dans l'éternité, passe les paysages, veille les monts serrés, ils veulent ce visage qui dort dans mes deux mains fermées.
Alors, quel est donc ce lyrisme ? Comment est-il possible, en temps de désastre ontologique, pour parler de façon un peu philosophique, comme ça, dans un temps où le blanc, la coupure, l'aggravation règnent en général sur la poésie. Un temps où, comme le dit un de tes amis, que j'ai reçu ici même, et que tu cites, si je ne m'abuse, à la page 99 de Pratique de l'éloge, les articulations se démettent. C'est une formule de
Michel de Guy,
voilà, qui est à la page. Michel de Guy, que j'entendais justement une fois dans un colloque dire, non dans un autre, mais dire l'étendue du désastre et tout ce qu'il reste à parcourir.
C'est gay.
Oui.
Il n'empêche que je me suis permis dans ce petit de faire figurer le nom de Guy à côté de celui de Claudel ou juste en dessous.
Oui.
Et ça n'a pas été sans susciter d'ailleurs des réactions un peu étonnées. De Claudel à de Guy, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que je mets de Guy très haut. Voilà, je le mets très haut parce que c'est véritablement un analyste justement de la désarticulation. Hein, je reprends le mot. Voilà.
Et c'est même une formule que tu as placée en épigraphe du petit texte qui lui est consacré. C'est à quoi sert une œuvre, elle démet des articulations. Tu ne démets pas des articulations.
Non.
Tu articules.
J'essaie.
Tu réarticules, ce qui est désarticulé même. Le travail qui t'occupe est pour beaucoup un travail de tissage, de lien. Tu rétablis du lien. Non.
Exactement, puisque ces rencontres s'intitulent « La poésie, pourquoi faire ?» C'est quelque chose qui me choque beaucoup. Beaucoup parce que si l'on doit essayer de montrer ce à quoi la poésie peut servir, elle sert à ravauder, justement. Je dis pour ravauder tant que faire se peut le tissu humain, le vêtement commun. Est-ce qu'il ne nous faut pas quand même, dans ces temps de désarticulation, tenter de songer sans timidité à quelque travail de reconstruction ? Reconstruction de cette phrase obscure, complexe, qui en nous, au gré ou non des sensations, marque l'existence d'autrui et tout ensemble comme une défaite orientée, intégrée au réel. C'est-à-dire que dans la sensation même, nous obtenons un résultat qui est, par exemple, l'existence d'autrui, ce dont nous ne pouvons pas douter, et en même temps, le monde apparaît, l'univers vient en quelque façon nous est restitué dans la phrase même. Donc, la désarticulation, il ne faut pas prononcer ce mot à la légère, il ne faut pas se laisser aller à croire que c'est là le fin mot de notre situation. Il faut indéfiniment, à l'intérieur de la complexité de la phrase humaine, chercher à combattre cette force qui, en nous, effectivement, tend au désastre. Mais le désastre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, il faut pas se lancer comme ça, de façon un peu démente. Il ne faut pas se mettre d'une façon démente dans la situation d'accepter que le désastre est la loi définitive de notre existence.
Alors
De Guy joue justement, Michel De Guy joue ce rôle parmi nous, ainsi que d'autres écrivains, il est le témoin d'une tension d'un manque de tension qui fait que... Mais son cas est plus compliqué, j'en reparlerai si tu le veux bien, parce que, en fait, il va moins loin que certaines personnes après lui et auprès de lui ne vont. Voilà.
Oui, et puis...
Parce que, comment dire, toute perception est un témoignage d'inquiétude. Nous ne pouvons pas percevoir sagement ce que nous pourrions percevoir. Nous ne pouvons pas non plus, imaginer que tout nous est dû à travers l'appareil perceptif. Nous échouons indéfiniment. Mais dans l'échec même, il y a peut-être la possibilité, grâce à certains moyens d'expression, tels que la poésie ou la prose, il y a peut-être moyen de lutter là contre.
Parce que Michel De Guy est parti finalement de débuts où sur lesquels les figures de Saint-Jean de Perse, de Claudel, d'une certaine manière, exerçaient encore leur influence. Quand on pense au premier poème de Fragments du cadastre de Bief, on n'est pas si éloigné que ça, et l'écart Claudel-De Guy n'est pas gigantesque à ce moment-là. Il s'est creusé, semble-t-il, à travers le temps, et une formule comme celle que j'ai citée tout à l'heure, l'étendue du désastre et tout ce qu'il reste à parcourir, ce n'est pas une formule que l'on entend depuis longtemps dans la bouche de Michel De Guy. Elle fait même peine à entendre d'une certaine façon, puisqu'elle marque cette aggravation, ou un sentiment, une prise de conscience de cette aggravation. Mais pour parler de l'autre auteur que tu as mis en évidence par cette bande, de Claudel à De Guy, tu admires profondément Paul Claudel, mais tu ne campes pas du tout sur les mêmes positions non plus. Henri Mitterrand le rappelle dans la préface qu'il a donnée à Paysage du Tout, ou plutôt il s'interroge, il dit « Je ne sais pas quel est le dieu de Pierre Auster. » Y en a-t-il un ?
D'abord, il faut pour faire un retour en arrière, il faut bien prendre la mesure de ce que j'appellerais, de ce qu'on peut appeler le fixisme de Paul Claudel. De même qu'il y a un fixisme chez Saint-Jean de Perse. Saint-Jean de Perse se déclare tout uniment, comme s'il était seul au monde, qu'il se place du côté d'Einstein. Bon. Et que c'est quand même là une responsabilité, dans la mesure où Einstein lui-même, au bout de quelques années, fort en quelque façon et affligé en même temps des remarques que certains spécialiste de cosmologie lui fournissait, on s'est aperçu que le monde n'était pas fixe et que le monde du ciel biblique n'était pas... Or, c'est ce que dit Claudel jusqu'à la fin de sa vie. Il va écouter une conférence d'un certain abbé Lemaître. Alors, on dit, tiens, c'est le fameux abbé Lemaître qui a, dans sa solitude en Belgique, proposé l'hypothèse selon laquelle l'univers était en expansion. Bon, ça aurait dû troubler Claudel, mais c'était un autre Lemaître, c'était pas le même. Voilà, donc nous sommes quand même conduits à aimer nos grands maîtres, mais à bien considérer, à prendre en considération l'évolution de la connaissance du monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est un monde atroce où toutes les choses se défont dans une expansion incommensurable à notre intelligence.
Oui, et donc il s'agit de ramender, comme tu disais tout à l'heure.
Ravauder,
de réparer. Le rôle de la poésie est de réparation. Elle est dirigée par l'idée du tout. La poésie, c'est un mot. L'un, le tout, ce sont des catégories, des notions qui reviennent. Mais tu parles d'ailleurs d'une... à propos de Saint-Jean de Perse, tu as une belle formule à propos de ce tout, tu parles d'un tout, je crois, à ciel ouvert. Ciel ouvert, est-ce que ça ne veut pas dire à ciel inhabité ?
À ciel.
Oui, tu dis ça à la page 17. J'ai presque envie de lire l'hommage à Saint-Jean de Perse, ça me permettra de retrouver la phrase. Une sagesse très ancienne inspire le seul maître que nous puissions aujourd'hui honorer. Aussi bien le prix qui s'attache à son œuvre ne dépend-il pas de notre sentiment ? Cette grande parole retentit à ciel ouvert. Une sérénité souveraine l'emprunt, sachons qu'il nous est loisible d'en tirer bénéfice. Je m'arrête là.
À ciel ouvert, j'entends... Pratique de l'éloge. Bon, l'expression est de moi. Je suis très content d'avoir pu republier ce livre sous ce titre. Mais encore faut-il prendre la mesure des difficultés auxquelles se sont heurtés ou ne se sont pas heurtés les plus grands maîtres dont nous avons à faire l'éloge. Or, il y aurait beaucoup à dire, pour revenir à Claudel, sur cette espèce de difficultés qu'il a eues, justement, à considérer que la cosmologie, disons, de ces habits de la Bible ne valait pas, ne valait plus, n'était plus rien. Et qu'en quelque façon, le monde, dans son expansion aujourd'hui avérée, puisque rien n'est stable, ne peut pas ne pas avoir une... comme conséquence que la phrase même entre nos mains est en train de se défaire. Donc les poètes tels que Michel, de Guy, ont raison de voir que le désastre humain est en quelque façon l'image de ce désastre universel que nous vivons dans les vues des gens qui font de la cosmologie. Oui. C'est-à-dire, les astronomes sont nos maîtres, en quelque façon, mais ce sont nos maîtres qui nous... mettre face à une situation qui est parfaitement épouvantable et insupportable. Nous croyons là être ici à l'abri. Pas du tout, nous ne sommes d'aucune manière.
Alors, laissons tomber les dieux.
Oui. Non, il y avait les Schelling, mettons. C'était cette vieille formule. En kai pan, le un et le tout font une sorte d'unité prodigieuse à partir de laquelle on peut s'exalter. Depuis les Grecs, on chantait la même chanson. Le un et le tout font un ensemble tel qu'on peut fonder quelque chose de solide dans la vie intellectuelle. Mais malheureusement, c'est faux. Et Michel de Guy, justement, lui bâtit tout à fait quelque chose de tout à fait différent à partir de l'examen. D'un mot qui n'a pas vraiment cours, qui est l'indiadine, c'est-à-dire l'un au moyen du deux. Et c'est la formule clé pour comprendre aujourd'hui. Je viens de lui proposer d'ailleurs de parce qu'il y a un petit texte qui est fautif par ma faute. Son œuvre se place sous le signe de l'indiadine. Elle se place sous le signe d'une formule qui, d'une certaine manière, est destructrice du sentiment que nous avons d'être rattachés à une unité supérieure. Cette unité supérieure, elle est défaite. Donc, d'une certaine manière, je me range aussi du côté des gens pour qui le désastre est déjà dans l'humanité. Il est déjà aussi dans la phrase. Mais est-ce qu'il ne faut pas, en même temps, essayer de faire en sorte que le désastre ne l'emporte pas tout de suite ? Est-ce que la poésie, la prose ne sont pas, comme nous avons demain, ne sont pas pour nous des outils qui nous permettraient de retarder cette dilution définitive de l'humanité dans son néant ? J'ai jamais dit ça. Dilution définitive de l'humanité dans son néant. Son néant est avéré, on le sait. Mais
tu restes un homme de foi. Des fois dans le langage.
Dans le langage, oui, d'une certaine manière. Oui, ravauder le vêtement commun, oui, c'est une sorte... Mais nous sommes prisonniers d'une situation qui est proprement terrifiante, mais nous pouvons essayer de faire semblant. Essayer de faire semblant.
Faire semblant de croire ?
Faire semblant de croire que nous pouvons encore... dessiner comme un monde qui serait beau et réel tout ensemble. Mais il n'y a pas de monde qui soit beau, il n'y a pas de monde qui soit réellement beau. ces choses-là ressortissent à un monde ancien sur lequel 100 générations ont vécu. Mais c'est fini. C'est fini. Paysage du tout, c'est une expression qu'en quelque façon je récuse aujourd'hui. Je me dis non. Tu as hasardé là une... D'ailleurs, c'est une expression qui comporte en elle-même sa propre destruction, ça même parce que si le tout n'est pas, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de paysage du tout, tout ça est faux. Voilà. C'est ainsi. C'est ainsi, c'est très dur, mais c'est ainsi.
Tu récuses du même coup l'idée de l'un qui est si active, si importante dans tes textes. Il faut avoir
d'une certaine manière, pendant une grande période de sa vie, avoir su dire ce que c'était que cette aspiration ou cette évocation d'une situation où les choses seraient réunies dans une unité de Dieu, dans l'unicité. Eh bien, voilà. Est-ce que ces temps-là ne sont pas maintenant révolus ?
C'est pour ça que tu n'as pas publié depuis 10 ans ?
Oui.
De poèmes nouveaux ?
Oui. Peut-être.
Parce qu'il faudrait quand même revenir du même coup sur ce lyrisme. Il existe, il est là, il a sa force. Je crois qu'il a pris en compte, ce désastre dont on parlait de bonheur. Il est averti, il est alerté par le vide. Il n'y a pas une inflexion, il y a plutôt une permanence dans ton œuvre. Alors, soit il y a un tarissement, une sorte d'épuisement, soit il y a là tout de même, et c'est ce que je crois, cette pratique de l'éloge qui porte en elle une raison d'être forte de la poésie. Indépendamment du dieu ou de son absence, ou des dieux et de leur absence, ou de l'un et de sa disparition, je me demandais une chose. Alors, puisqu'on est du côté du sentiment de l'insuffisance ou de l'impossibilité de la poésie, peut-être que ce qui m'a le plus gêné dans tes poèmes, c'est l'absence des êtres. C'est qu'ils sont tout entier, je dirais dévoué ou dévolu au paysage du tout, à ce que l'on pourrait appeler la nature, ou à ce qu'à une certaine époque on aurait appelé la nature. Mais les êtres, ils sont curieusement absents, sauf à la fin, dans la dernière prose, où curieusement l'écriture change, et là, pour clore quelque chose, et là je suis très troublé par la construction même de ce livre, Tu as jugé bon, au moment de clore ce volume, d'introduire 3 pages de prose, 2 pages et demie, qui s'intitulent « Patrie des visages », et dans lesquelles, ben voilà, il y a le visage, donc il y a les êtres. Tu as un commentaire à faire sur le choix de... Tu vas peut-être t'en sortir encore par une pirouette.
Ah non, pas du tout. Je ne suis pas amateur de pirouettes. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile que de dire l'existence des êtres ? Ça, il faut des moyens intellectuels et littéraires que peut-être je ne possède pas. Mmh. C'est peut-être chez moi une insuffisance essentielle et criminelle.
Criminelle, c'est beaucoup dire.
Criminelle, c'est beaucoup dire, mais je le ressens ainsi. C'est un échec.
Tu as tenté ou tu n'as pas tenté ? Pour qui échec ? Moi, j'ai plutôt l'impression d'un parti pris, d'une certaine tonalité, direction poétique qui est établie d'emblée, qui va dans sa direction, qui la suit obstinément, qui se pose, qui se ramifie, qui est tout occupé à ce travail de reprise, parce qu'on n'a pas parlé de tes brouillons, par exemple, hein, ce travail sur le nez varietour, donc de reprise indéfinie, d'obstination avec quelque chose de peut-être désespéré, c'est ce que j'ai l'impression d'entendre là, mais qui finalement, bon, reste fidèle. Je me dis souvent, en lisant Valéry, en lisant Saint-Jean de Perse, en lisant Francis Ponge, qu'il y a beaucoup d'œuvres modernes qui sont des œuvres de parti pris, qui reposent sur des partis pris. C'est-à-dire qu'il a fallu au poète, pour établir son, son univers, et pour pouvoir réussir à surmonter peut-être une crise, comme l'a fait Saint-Jean-de-Perse, comme l'a fait Valéry et comme l'a fait Ponge, pour surmonter une crise, pour maintenir la possibilité même de la poésie, il a fallu à un moment donné un parti pris. Tu as eu ton parti pris. Donc je ne parlerai pas de l'absence des aides comme d'un oubli criminel ou d'une insuffisance. Je parlerai au contraire d'un choix, d'une direction, d'une logique que tu as poussée très loin. Peut-être pourrais entendre encore un extrait, parce que tu nous laisses là sur des sentiments un peu tristes. Est-ce que sur un reniement, il faut contrarier cette idée en entendant la voix même?
Ô absence, tu eusses dû être éternelle. Dans la lumière que l'ombre scelle, tu eusses dû brûler et larbrer mon désir. Déjà je renonçais au plaisir de périr. Mon âme, chanterelle du corps et de l'âme, favorisait le vide et son inverse flamme. Et le lieu du roc souverain, c'était l'abîme pur au cœur d'un abîme d'airain. Tout un néant passant le néant du silence, précipitant la nuit précieuse à l'essence, consumant le secret sur qui l'aurore mord, emportait l'univers et lui formait un port. Absence, défendue des soleils que tu lasses, défendue des torrents, défendue des espaces, l'océan te louait. D'un violent sillon, tu puisais sans répit dans sa présomption. Quand j'invoquais une image plus grande que l'hirondelle, que les monts, que leur offrande, quand, d'une ode sereine où la nuit exultait, j'appelais sur mes mains l'or immense et parfait. Une forêt, chassée de la terre première et du temps absolu qui s'écoule du Père, harcelant le silence et ne couvrant que lui, s'arrogeait en mon champ le seul jour qui eut lui. Quand au plus clair de la toute-puissance du Verbe, comme une épée dans ma naissance, je me donnais avec le roc pour protecteur les cieux nouveaux parmi les nouvelles hauteurs. Tout au bas d'une mer à jamais indistincte, sous une étoile éprise d'une rose éteinte, un fleuve détaché des matins de l'été imposait à mon front le fait de sa beauté. Absence, maintenant ta défaite est moins vaine. Je te sens par mes pleurs aspirer à la plaine. Dans le vent qui commence au-dessus des saisons, unique, rassemblant nos frêles nuaisons, dans l'obscure vallée en qui veille une crête, tu sembles lentement le soleil qui s'arrête. Au bord du jour adustes, à l'espace pareil, à force de t'enfuir, tu touches au soleil les chants que tu livrais aux nocturnes nuées, et les nuées sans fin, sans feu continué. Toutes ces pierres, comme un guet pour la forêt, parent l'instant où la parole a son secret. L'aurore dure, les torrents que tu déchaînes, les flots, le noir vaisseau impatient des chaînes, les printemps couronnés de leur propre retour ne sont plus qu'un surgeon devant l'arbre des jours. Clos sur sa ressemblance avec l'hymne amoureuse, l'océan excellent se ramasse et se creuse, restituant l'abîme en puissance d'écho à la limpidité de l'antique repos. Et parmi l'augural hiver que l'or imprime, absence aux vives rives de la nuit intime, par-delà les détroits des espaces déserts, par-delà les sommets qu'habite l'univers, une source à demi céleste, à demi née, retrouve ta splendeur dans les eaux de l'année. Pénètre ces ténèbres pures que le vent marque ainsi que la mer de son empan mouvant. À la faveur du feu, l'essence se disperse aux confins éclatants de l'éternelle averse. L'invincible univers ne consent, ô été, qu'à l'accomplissement de l'ample vérité. Âme du seul visage intérieur au monde, où s'accroît la parole qui fonde, où le même chemin, plein d'espace, répond de l'abîme et s'abrite au sein du nom profond. source toujours plus douce à mesure que l'ombre dans l'absence compose une plaine moins sombre, source, nous dédions ton divin appareil et ton embrasement au lieu et au soleil, tandis que plus épais que ses lais infertiles, le fleuve, retenant de véhémentes îles, expire sous l'empire et la légèreté de l'univers qui se répand dans l'unité. Tout l'océan abrupt incline vers la terre l'épanouissement de l'arbre qui l'enserre. Je puis te regarder, ô jour. L'oiseau des eaux revole son royaume aux anciens rameaux. En dépit des printemps voilant ta transparence, des soleils jaillissants de l'absence, tu recueilles la nuit immarcessible en toi, tu connais la lumière, tu connais ta loi. La tempête, dans l'or du suprême poème, opposée à la paix de la source que j'aime, n'offusque point soleil ses insensibles raies. Les hauteurs la protègent dès que tu parais. La voyant, je pressens l'ombre même de l'être. L'univers ne m'est plus que l'orbe du seul maître. La plaine que je foule éclate sans torrent, s'éprend de la grandeur de mes songes errants. Obscurcissant l'éclair qui brûle à ma rencontre, je me livre à l'abîme et l'abîme me montre ce qu'il garde en secret de lumière et de lieu, ce que doit aux ténèbres ce nom pur de Dieu. Ô absence où ma nuit amassée s'est meurtrie, tu respires en moi toute une âpre patrie. Près du fleuve que j'illuminais, de ton abaissement inconnu tu renais.
Très beau, Pierre. D'entendre. Je me disais en écoutant, c'est du Racine. Alors, est-ce que c'est parce que Sophie a peut-être l'habitude de lire du Racine et qu'elle,
Oui, peut-être, oui. Je sais
pas. Ou est-ce que c'est pas justement cette. Il y a tout l'effort, toute la, je veux dire, toute la tension, tout le drame de. Qui conduit à essayer de porter ce sentiment ou cet éloge ou cet assentiment en dépit de tout ce qui le décourage. Parce que tout à l'heure, je parlais de cette nécessité du parti pris dans des œuvres modernes qui essaient de chanter. On pourrait ajouter nécessité aussi d'un fort « et néanmoins », pour reprendre la formule de Jacotet que j'aime beaucoup. Le poète chante néanmoins, en dépit de tout ce qui le décourage, ou de toutes les raisons qu'il pourrait avoir d'arrêter, de toutes les raisons qu'il pourrait avoir de ne plus écrire. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est l'affirmation, encore une fois, que la terre est un savoir, pour reprendre une formule qui ouvre un de tes poèmes. Elle est là, le monde est là, il nous rappelle un ordre plus fort que tout désastre. N'est-ce pas ça ?
Eh bien, tu décris là une courbe idéale que je suis bien incapable de
c'est pas
de redessiner.
C'est celle qu'on, on lit quand on te lit, ni plus ni moins. Je veux dire une trajectoire. De toute façon, quel que soit le scepticisme que tu peux à présent avoir vis-à-vis de tes textes ou de longue date, ils ne t'appartiennent plus. Ils sont ce qu'en font les lecteurs.
Oui.
Tombe ou trésor, comme disait Valérie.
Eh bien, j'en suis bien malheureux.
Oui, parce que malheureux. Tu ne veux pas que ça t'échappe. Tu voudrais pouvoir continuer à agrafer indéfiniment des pages sur des pages,
oui.
À raturer encore, à reprendre jusqu'aux mille feuilles le même poème.
Oui. Oui, j'ai honte, d'une certaine manière, de m'être laissé aller comme ça, accumuler des mots qui ne me conviennent plus. Et en même temps, bon, j'accepte d'avoir été celui qui s'est trompé en croyant qu'il pouvait trop tôt tenter ce genre d'expérience lyrique. De 20 ans à 30 ans à 40 ans, on se trompe. Voilà, on n'est pas encore capable de mesurer son travail à ses possibilités. J'ai excédé d'une certaine manière, je suis passé au-delà d'une ligne que je n'aurais pas dû franchir. J'aurais dû me montrer plus circonspect, plus modeste, plus soucieux de décrire des petites choses. J'ai été, inconscient, en quelque façon, de ma propre faiblesse. Et ma faiblesse, maintenant, je la ressens, je la condamne, je ne suis pas du tout apte à l'oublier.
Cette faiblesse, tu la revendiques dès le début. Tu oui. prends le parti, justement, de cette position de retrait que j'indiquais tout à l'heure. Tu as main propos qui répète cette attitude modeste et en même temps.